Alors. Et on parlait tout à l'heure du sens original des sons. C'est une musique que je peux quasiment plus jouer, ça. Donc je l'ai faite en 76, elle a 30 ans. Et j'ai utilisé le chant du muezzin musulman parce que je suis d'origine orientale et né à Marseille. Et donc pour moi, c'était évident que culturellement, j'utilisais ça comme faisant partie de ma propre culture, quoi, hein. Et puis c'est devenu autre chose. À une époque, on faisait des concerts dans certains châteaux de la région. Pas de ça chez nous, enfin des Arabes chez nous, franchement, ça se fait pas. Et puis maintenant, c'est l'inverse, quoi. J'hésite à la jouer, on me demande de pas la jouer, de peur que ce soit pris comme une insulte ou comme un manque de révérence par rapport à certains extrémistes. Voilà. Alors, pour déborder parce que ça, c'est un cas très très fort de la signification originale des sons. C'est peut-être une des musiques les plus hétérogènes et les plus. S'il existe une musique expérimentale, c'est la question qui se pose, c'est de faire une unité de quelque chose qui, à l'origine, est quand même très hétérogène et très éloigné. Pour moi, c'était à travers les mouvements et les rapprochements de mouvements que j'essayais de faire une unité de cette pièce. Donc je ne garantis pas que ça fonctionne, mais en tout cas, c'était mon projet au moment où je l'ai faite, quoi. Voilà. En tout cas, c'est ce qui permet de faire la bande magnétique, hein. Pour la petite histoire, à cette époque, on ne travaillait plus avec des tourne-disques depuis longtemps, puisque le magnétophone est apparu au début des années 50. Ça représente à peu près 6 mois de travail avec des milliers de collants et de montage et de collures au ciseau, comme on le fait avec les techniques de support, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure.
Et t'avais pensé à... Parce que là, j'en suis encore plus dans l'écoute. Si vous avez des questions, parce que moi, je serais plus dans le renvoyer vers une autre écoute, mais...
Là, tout de suite,
hein. Bah, toi, t'avais des questions.
C'était par rapport à la notion de liberté que tu développais dans ton travail, justement. Et moi, je me demandais, finalement, si le gros de la...
Tu peux parler plus fort.
Ouais, je vais parler plus fort. Le gros de la... La question que tu soulevais d'avoir une démarche plus libre, donc de revenir à la source,
oui.
Finalement, s'il n'y avait pas une sorte de démystification du rôle quasi élitiste du musicien par rapport à tout objet qui, comme celui-là, peut faire du bruit qui devient musique, oui. Si on le maîtrise, si on a cette relation. Et quelque part, tu disais, bon, bah, dans l'éducation, on ne voit pas ça arriver. Finalement, c'est tout à fait anarchiste comme.
Là.
Non, de dire on va démystifier tout, s'armer tout à plat. Donc quelque part, ça a contre l'ordre social. Est-ce que c'est pas une des raisons?
Oui, je me pose pas la question exactement comme ça, parce que je suis pas engagé politiquement, mais je pense, oui, que le retour aux sources se fait. Comment je vais répondre à cette question? Enfin, quand je ne sais pas bien répondre aux questions, c'est que je ne me la pose pas exactement comme ça. Donc, il me faut un peu de réflexion pour y répondre.
Je la poserai comment?
Moi, je crois que j'y ai répondu. Je fais partie d'un milieu très modeste et d'immigrés. Je racontais ma vie. Mais enfin, puisque c'est moi qui suis sur la sellette. Donc, je suis très attaché à ce qui est commun. Enfin, je veux dire, ça fait partie de... Alors, je me le pose pas en termes d'anarchiste, etc. Mais sur le fait que j'affirme une dimension physique très forte au son, je vais en parler tout à l'heure, hein. Que c'est pas un truc qui est pur esprit comme ça parce qu'on le voit pas, etc., mais que ce qui est une dimension quasi sensuelle au son, en fait, comme un objet aussi éphémère soit-il, moi c'est quelque chose qui me paraît très commun et que je ne néglige pas du tout comme une chose commune, si bien qu'on m'a parfois accusé de faire la variette, quoi, dans une musique qui est plutôt considérée comme savante. Enfin, en tout cas, c'est pas ma culture d'origine, et je me dis que puisque moi j'y suis parvenu, que l'être humain a un esprit, je vois pas pourquoi moi et d'autres on serait exclus de quelque chose qui est perçu comme très élitiste, etc. Et l'autre sens, c'est dans notre propre nature, c'est-à-dire le retour aux sources. Si on a le temps, je vais en parler. C'est que pour moi, la musique prend de toute évidence. J'ai travaillé avec des enfants, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ils sont vachement cultivés. Et puis j'ai changé de terme, j'ai dit culturés. Parce que j'ai appris avec eux que si on considère que la musique n'est pas née d'une inspiration comme ça ou d'une nuit brumeuse avec une maîtresse dans le romantisme, etc., dit que c'est une musique révélée, alors toutes les racines de la musique se trouvent dans l'être humain, dans sa nature. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus comme un point commun, véritablement, dans toutes les musiques, hein, qu'elles soient savantes. Alors, pour répondre à cette question, moi je suis parti d'un constat physique, je suis physicien aussi d'origine, et je me souviens d'un prof de physique qui me disait quels sont les éléments en présence, inventaire des forces. Alors je repars des sources. Les sources, c'est l'être humain qui a des oreilles, qui donne du sens aux choses puisque c'est lui qui écoute. Et puis il y a des grandes catégories de sons pour lorsqu'on passe du bruit à son. Voilà comment je fais le trajet. Je me dis l'être humain est capable d'en produire lui-même avec sa voix, avec son corps. Et puis donc c'est déjà toute l'origine par genre très très importante qui est le chant grégorien, la chanson, l'opéra, tout ce que tu veux. Ça, on le porte en nous. Et puis on a un corps humain avec des membres et puis on a des objets avec lesquels on peut faire des violons, mais aussi taper sur des choses comme ça. Ça a un sens fort. C'est-à-dire moi si je fais ça, c'est pas du tout pareil que si je fais A. Immédiatement, on a une signification très très forte. Et puis, voilà ce que l'être humain sait faire. Et puis, il y a les ruisseaux, les petits oiseaux, l'environnement social, l'environnement industriel, qui n'est pas directement fait par son propre corps, mais qu'on peut prendre, ou qu'on pouvait imiter avant. Il y a toute la culture. Voilà, j'avais déjà fait des familles de sons qui ont une signification très forte à l'origine, par la place que l'être humain prend par rapport au domaine sonore, s'il y est. Alors ça, c'est d'un basique élémentaire. On peut l'appeler anarchiste, on peut l'appeler élémentaire, naturel.
Retour aux sources.
Parce que quoi qu'on fasse, je me pose la question de dire quels sont les éléments en présence. Revenons à la nature. Et dans les cours, on a travaillé ensemble sur le rapport nature-culture qui me paraît important. Deuxièmement, il a des instruments. Tantôt, c'est des violons, mais là, c'est des instruments électroacoustiques avec lesquels il peut s'exprimer. Et j'ai travaillé beaucoup sur la structuration de l'espace, des timbres et du temps. Puis, il y a d'autres êtres humains. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, l'histoire montre que cette classification a une telle signification forte qu'elle est à l'origine de bien des esthétiques. J'ai dit l'opéra, la chanson, l'orchestre seul, l'imitation de la nature, le travail avec la culture, qu'on a là, qu'on comporte comme ça. Hein. Puis je travaille aussi sur les qualités. Alors voilà, moi déjà, ce travail me paraît important. Mais au-delà, je me suis dit, mais qu'est-ce que cette situation-là, si on veut faire de la musique, a de signification, a de sens? Et se poser la question du sens en musique, c'est mal vu. Du tout. Alors moi, j'arrive à ce problème en lui donnant plusieurs significations complémentaires. J'ai utilisé toutes les significations du mot sens en lui-même. Alors sens comme sens au réel, je vais en dire quelques mots, parce que je l'ai largement utilisé dans les musiques. Sens comme, encore une fois, De Vos, qui dit, c'est le mouvement. Sens, où ça va? Mouvement. Hein, d'où ça part et où ça va, parce qu'on écoute ça dans les relations. Il y a sens comme sensible, c'est-à-dire, bien sûr, ça va d'un endroit à un autre. Quand je dis ça va d'un endroit à un autre, ça y va d'un seul coup, ou bien comme un être présent, il s'en va, il revient à l'identique, il repart avec tout ce qu'on peut dire sur la présence et l'évolution des sons. Hein. Mais le sensible, pour moi, c'est comment ça y va. Est-ce qu'il y a des écarts très larges? Est-ce qu'il y a des ruptures? Est-ce que ça revient, ça repart, etc.? C'est le sensible au sens large. Je n'entends pas par sensible forcément de fins écarts, très très légers, comme on parle d'une sensibilité féminine, parfois très délicate, etc. Par sensible, comme le bouton de sensibilité là, qui est là, c'est-à-dire il peut y avoir des ruptures complètes, etc. Et ça fait partie du sens musical. Il y a sens comme sensitif ou sensuel ou presque sexuel, c'est-à-dire que pour moi le son n'est pas visible mais il a une présence physique évidente même s'il est éphémère, que ça touche le corps, ça touche la peau, ça touche les oreilles et que j'aime bien ce rapport de corps à corps avec les sons qui fait partie de la musique et qu'on retrouve dans les miennes que je ne nie pas. C'est-à-dire on n'est pas de purs esprits, moi non plus, et ce côté un peu populaire, je le cultive et j'ai besoin d'un rapport très physique avec les sons pour les sublimer. Dans les rapports, dans les choses comme ça. Hein. Voilà. Et il y a sens comme sens de l'histoire, au sens esthétique qui n'est pas négligeable. Et il y a sens comme sens original des sons. Voilà, pour moi, cet ensemble de domaines fait partie du sens musical. Je pense même que je l'ai cultivé dans l'éducation et dans l'enseignement que je donne. C'est-à-dire ce qu'il y a de commun avec les élèves qui sont bien grands, qui ne sont pas des enfants, ou même les tout-petits, c'est que je prends comme point commun ce qui est commun à moi-même quand je travaille comme compositeur et ce qui est commun lorsque des enfants ou d'autres travaillent. Ces domaines-là, qui sont le sens de l'histoire, le sens originel des sons, et on voit à quel point ça a de l'importance. Sens comme sensoriel, sens comme direction, sens comme sensitif, sens comme sensible, font pour moi partie des qualités de musicien, enfin, partie des choses qu'on a à vivre, qu'on vit très spontanément. Excusez-moi d'être un peu intello là, je suis prof et il faut bien l'expliquer, mais je ne me prends pas la tête comme ça quand je travaille. C'est-à-dire c'est une unité qui devient spontanée, et auquel je fais appel quand je travaille. Mais je le cultive davantage quand je me forme, quand je travaille, quand j'expérimente. Et après, c'est quelque chose d'assimilé qui est intègre, qui est entier, et que je fais fonctionner globalement, et pas de manière décomposée, comme quand on communique, parce qu'il faut bien dire les choses les unes après les autres. Voilà. Alors, si tout ça, c'est une remise à plat dans laquelle je me retrouve avec tous les êtres humains, alors on peut dire que c'est pas trop intello et que c'est, j'espère, être accessible par tout le monde. Voilà, je me pose plus ça comme ça, comme un engagement humaniste, humain, que comme un engagement d'ordre politique, si tu veux.
Clairement, ouais.
Voilà.
Dans cette démarche. Et donc tu as l'opportunité d'être avec des adultes, oui. Mais aussi d'être avec des plus jeunes.
Oui.
Jusqu'à quel âge et comment sont perçus?
Alors, mais ici à Bourges, il y a une histoire quand même, puisque j'ai travaillé au GMEB, qui est devenu IMAB, et qu'à l'époque, il y avait un grand intérêt de la part du milieu maternel. Il y avait à l'époque des inspectrices des écoles maternelles et on trouvait qu'un travail graphique était fait dans ces écoles. L'école maternelle est toujours en avance en France, en particulier avec tout le travail sensorimoteur. Et on a fait appel à nous pour travailler avec le son, avec le domaine sonore et la musique. Donc il y a un instrument qui a été fait ici à Bourges qui s'appelle le gmebogos, c'est presque imprononçable comme terme, avec des cassettes, avec des micros, avec de la synthèse. Et en effet, donc, j'ai été amené à découvrir le monde de l'enfance en rapport avec les sons. Et je me suis débrouillé pour en faire un rapport à double sens. C'est-à-dire, j'ai d'abord essayé de faire l'instituteur, puis j'ai vu que franchement, c'était pas ça. Et puis c'est pas ça qu'on attendait de moi. Alors, en revanche, des questions venant de leur part sur le domaine sonore, moi, m'ont beaucoup appris, en particulier, parce que quand je suis pris de cours et qu'on me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre, ça, c'est moi qui fais les devoirs à la maison, d'une certaine façon. Voilà.
Et ils n'avaient pas... Est-ce qu'ils avaient déjà, je ne sais pas à partir de quel âge d'ailleurs, c'était maternelle, c'était...
Avec des maternelles sup, avec des maths sup, c'est-à-dire des 4-5 ans, quelque chose comme ça.
Toi, tu n'as pas fait partie justement de ces...
Justement, on découvrait que, tout à l'heure, qu'on était en train de discuter avant l'émission, que moi j'avais été à l'école primaire et que j'avais visité, très certainement qu'on s'était rencontrés à cette époque, sur le souvenir des personnes est moins marquant que le souvenir de l'expérience musicale qu'il y avait. Et justement, la question, c'était un peu de savoir à quel point déjà l'acquis et la structure en différenciation du son et du bruit donc avaient pris une importance
mais précisément,
chez les enfants, ou si c'était encore malléable
Le moment où j'ai arrêté de jouer à l'instit et que j'ai essayé d'être artiste avec eux, parce que c'est ça qu'on me demandait, enfin j'ai mis un peu de temps pour m'en rendre compte, mais quand c'était pas mal, c'est précisément en rapport de nature à nature qui m'intéressait. Le rapport nature-culture, je l'ai découvert avec le monde scolaire, bien entendu, parce que ça m'a obligé, moi, à me décomposer puis à comprendre comment je fonctionnais. J'y ai trouvé une source d'inspiration pour moi et c'est une relation à double sens dans la mesure où j'essaie de comprendre la manière dont ils fonctionnent et de m'adresser à eux en leur proposant des activités qui leur conviennent et pas des trucs en l'air comme ça. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé à faire avancer l'enseignement, en particulier à faire des ateliers pour eux, de m'adresser le moins possible avec des mots compliqués. Le self-page de Pierre Schaeffer, qui est 600 pages et qui est déjà très, très évolué, n'est compréhensible que par des adultes, et j'ai mis au point une petite cartographie qui leur permette de comprendre avec des jeux, des choses de ce type-là, des situations d'abord. C'est-à-dire leur faire vivre par le corps essentiellement, et pas par une terminologie, une morphotypologie qui est trop compliquée pour eux. Alors j'ai beaucoup cultivé avec eux, mais avec des références pédagogiques qui m'étaient données. Hein. Le jeu, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est depuis des siècles déjà, depuis les Grecs. Entre autres, j'ai beaucoup utilisé le corps pour travailler sur l'espace. Alors, il y a une petite cartographie où je considère que les sons sont des êtres. Alors, ça, j'ai expliqué. Hein. Parler d'eux, comme on a parlé tout à l'heure, l'être lui-même, tout seul, ses qualités, son caractère. Et le son peut être aigu, grave, loin, près, à gauche, à droite, avec des termes qui mesurent, puisque c'est la façon dont il existe, le son, l'espace, la matière et le temps. Bref, long, avant, après, des choses aussi simples que ça. Hein. Mais qui sont très très importantes quand même, parce qu'un vocabulaire approprié permet de faire la musique. Par exemple, des gosses portent déjà ces notions en eux-mêmes. Hein. Ils disent « il y a un blanc, il y a un espace ». Pour indiquer le silence. Mais quand on dit silence, c'est autre chose. Puis on peut avancer beaucoup. Quand je travaille avec des lycéens, je leur dis c'est quoi le silence ? Ils me disent ça veut dire ta gueule. Et l'éducation vient du fait de leur faire comprendre que c'est pas un espace de négation le silence, c'est un espace positif de construction et de création. Et d'en passer du bruit au son, c'est cette autorisation-là. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Un gosse à l'école a l'habitude de jouer avec des cassettes, il met play. Où la maîtresse le fait chanter, elle donne le départ. Et sur place, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont aucune notion qu'une musique, ça commence par un silence. Lorsque c'est à eux de faire, de créer, ils ont la responsabilité de toute la construction. Et il n'y a plus d'attitude d'application à une structure externe où quelqu'un dit « c'est à toi de partir, ferme ta gueule, c'est à toi de jouer, fais le bien, etc. etc. » Donc faire découvrir à un gosse qu'une musique, ça commence par du silence, par exemple, c'est tout est à faire, que ça a une forme, que ça a un début, ça a une fin. Parce qu'ils ne le vivent pas comme ça. Quand tu me plais, tu me stops, tu ne te poses pas la question d'une forme, d'un mouvement, d'un contenu. Donc du coup, moi, ça m'a beaucoup appris. Et ce vocabulaire-là, il est fondé, un, sur les qualités. Enfin, comme si je vous voyais vous, et je vous dis, bon, toi, tu es un, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es brun ? Est-ce que tu es grand ? Est-ce que tu es petit ? Comment tu t'habilles ? Etc. Eux, c'est des petits, ils ont un peu tendance à dire, lui, il est méchant, lui, il est gentil. C'est-à-dire mélanger l'affectif. De l'objectif, donc il faut les faire travailler là-dessus. Deuxième point, la deuxième grande catégorie commune, c'est comment ça bouge, comment c'est dynamique, comment ça avance, d'où tu vas, est-ce que tu arrives du côté coulisses, est-ce que tu t'en vas, tu reviens, tu t'arrêtes, etc. Et la troisième catégorie, c'est toi avec les autres, hein, c'est-à-dire les chronologies, les relations, les choses comme ça. Avec un vocabulaire aussi simple qui indique finalement un comportement ou un être qui n'est pas forcément un être humain, qui n'est pas forcément un être physique, mais qui peut être un être imaginaire. On peut se débrouiller à partager avec des enfants une espèce de d'appréhension sur les sons, parce qu'à partir de là, si on arrive à nommer ou à saisir, alors on attrape et puis on fait des relations. Sans quoi, on n'est pas autorisé à jouer et à faire des rapports aussi amusants soient-ils. Ouais.
En fait, c'est une sorte de... la cartographie, ce qui est très intéressant comme terme, c'est une sorte de gymnastique de l'alternative. D'une certaine manière, tu te donnes de l'alternative en montrant des contrastes entre...
Pour moi, c'est une initiation, c'est un acte initiatique, c'est un accouchement, c'est vraiment une autorisation. C'est-à-dire, si on fait découvrir à des enfants que passer du bruit au son, c'est arriver à s'approprier le domaine sonore, à être autorisé à l'utiliser, à la fois en ayant des comportements et à la fois avec des termes qui permettent de les saisir, de les mémoriser et de les mettre ensemble. Une fois que c'est ça, on donne les instruments et puis c'est débrouille. Enfin, ils font de l'expression, de leur âge. Moi, je les aide, je le fais pas à leur place. Donc oui, cet acte initiatique prend tout son sens, puisqu'on a parlé tout à l'heure du bruit au son. Avec des gosses, on peut leur donner les outils et leur donner les moyens d'être libres eux-mêmes face à ça. Par un petit peu de conscience des sens. On n'est pas obligé de le faire de manière théorique comme je l'explique là, comme ça, mais par des jeux où on dit, tiens, le son se balade à gauche, à droite, alors je me déplace, le son n'est plus là, donc je vais au garage, voilà, des trucs qu'on peut imaginer que les instituteurs des écoles maternelles, institutrices connaissent très bien. Voilà, donc moi je prends ça comme assez important, cette notion de sens qu'on donne à cette relation, très simple, très basique, voilà, je suis là, il y a un monde sonore, j'ai les oreilles, puis après tous les animaux, eux, aussi, ça a du sens. Je veux dire, un chant d'oiseau pour qui est une parade amoureuse ou des trucs comme ça, comment dire, si on reconnaît que c'est ce son-là, c'est bien qu'il a des qualités, c'est bien qu'il a ces qualités-là. C'est-à-dire, vous prenez de l'eau qui coule, c'est un ruisseau. Moi, je vous l'analyse en disant c'est un son continu, épais, granuleux, etc. Bon, laissons passer. Parce qu'on a intégré ça depuis longtemps. Mais de l'eau qui goutte, ça a un autre son que je peux vous décrire. Et puis, une bulle qui est dans l'eau qui fait bloup, bloup, je peux vous le décrire, c'est court, ça va du grave à l'aigu. Et je sais, et vous savez comme moi, écoutez si c'est une matière épaisse ou si c'est une grosse bulle ou si c'est pas une grosse bulle. Rien qu'au son. On a intégré ça de manière extraordinaire. C'est-à-dire que c'est indissociable. Quand je vous parle des deux sens, bruit et son, c'est que vous savez bien que c'est un chant de parade amoureuse, l'oiseau, ou que c'est une goutte, ou etc. Rien qu'aux qualités du son. Sinon, ça n'aurait pas le même sens. Vous voyez bien que c'est indissolublement lié. L'un va avec l'autre. Alors ce double rapport-là, pour passer du bruit au son, ça vient avec, c'est intéressant. Ça peut se cultiver, ça peut se découvrir. Et à mon avis, c'est à l'origine nature-culture et commun à nous tous.
Et le passage du son à la musique, il se fait comment? Puisque là, on a vu la cartographie qui permet...
Oui, par les relations et par les rapports qu'on peut essayer entre les sons. C'est-à-dire que si moi, je ne te considère pas comme un objet, comme un bruit, mais que je considère comme un son, je m'approche, je te parle, on se parle, etc., on se connaît, il commence à y avoir des relations entre nous, mais ce type de rapport est commun aux relations qu'il peut y avoir avec d'autres. Mmh. Et donc, si on a du temps, on s'autorise aussi à faire des rapports entre les uns et les autres. Alors moi, je peux considérer les sons comme ça. Hein. C'est pour ça que je passe de statut d'objet à sujet au statut d'être sonore, au sens très large du terme. Alors ça peut se vivre de manière non intellectuelle et de manière adaptée à la petite enfance, comme ça peut se vivre par des pratiques.
Et par des écoutes.
Oui.
Je vois que tu as la noire associante de Pierre-Henri. Je voulais savoir pourquoi est-ce que tu l'avais amené par rapport au...
comme ça, parce que je l'avais sous la main et je n'avais pas trouvé de signification particulière. Je voulais, faire écouter une des miennes. C'est pas que... Et puisque vous m'avez demandé. Pour ce rapport du bruit au son, précisément, pendant que je la trouve... Où est-ce qu'elle est? Qui s'appelle la schiuma dei rumori, qui s'appelle l'écume des bruits, précisément. Parce que j'ai testé ma... Je me suis abusé à ce double sens, comme j'ai enseigné beaucoup. Chanson de geste que je viens de faire, je l'ai fait lorsque je travaillais beaucoup avec des enfants, hein, qui est une musique qu'ils aiment bien, ne se posent pas la question du médecine et de la culture musulmane, eux. C'est une musique à danser un petit peu aussi, hein, donc je l'ai faite dans ce sens-là. Et il y a plusieurs musiques qui sont arrivées après coup. Je me suis dit, puisque j'enseigne ça, quand même, il serait temps que je me mette moi-même à l'épreuve et que je le fasse moi-même dans des travaux. L'avant-dernière que j'ai faite s'appelle Preuve et Preuve, justement, où je me suis mis à l'épreuve de ce que je dis et ce que j'enseigne. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas de solfège, puisqu'il n'y a pas d'écriture et que l'être humain se confronte directement, je décide de me mettre à l'épreuve du son, directement. Je pars sans projet. Et la solution, c'est pas d'apprendre le solfège, c'est de me structurer comme je sur les quelques domaines que je viens de vous indiquer, de le faire moi-même, et je démarre une musique sans projet autre que me faire confiance, hein, travailler avec le domaine sonore et d'appliquer ce que je dis, c'est-à-dire au lieu de structurer quelque chose d'extérieur, je considère que c'est moi que j'ai construit, et j'y vais, voilà. Donc l'avant-dernière, je suis parti sans projet, ayant pour tout projet ça, ce que je suis en train de dire là, et donc je l'ai appelé Preuve et Preuve. Et la précédente, c'était précisément cette lisière entre le bruit et le son, que j'ai appelé l'écume des bruits. Comme il y a déjà Boris Vian qui avait fait l'écume des jours, je l'ai mis en italien, la schiuma dei rumori, ce qui est un titre affreux complètement. Encore faut-il que je la trouve. La plage 5 qui est là, c'est une dizaine de minutes aussi, hein. Et donc il y a une espèce de parcours dans cette musique là où les sons vivent un peu pour eux-mêmes, comme je viens de l'indiquer, c'est-à-dire on est à la lisière entre des rapports où le sens est conduit par les rapports entre les sons, comme ça avance, ça progresse dans une forme de manière très classique, et du moment où je laisse la liberté du côté du monde sonore pour lui-même. On est un petit peu à la limite, à la lisière entre le monde sonore et le monde musical. Et donc j'ai voyagé un petit peu dans cet entre-deux, pour reprendre un terme qui est familier ici, apparemment. C'est une autre façon de considérer la liberté aussi, hein. Donc on s'en prend pour 11 minutes. Si vous voulez arrêter avant, on peut arrêter avant. Bah, on peut zapper.